muffin is a freedom fighter. He's handling his choice, and I know that the dear ragamuffin is a one-off-y friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. A dear ragamuffin shall not fall down. See, as the wisdom of another fool around.
I know that you cannot live on hope alone, but without it, life is not worth living. And you, and you, and you, you've got to give them hope.
À la vie, à l'amour, que ces moments-là restent en nous pour toujours. À l'amitié, au beau jour, qu'ils éclairent vos parcours.
Press play, don't press pause. Progress march on, with the veil over our eyes. We turn our back on the cause, till the day that my uncles can be united by law. When kids aren't walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear.
Bonsoir tout le monde. Voici l'émission Quasar on the Air sur Radio G 101.5 FM à Angers. Alors ce soir, nous sommes trois. Il y a Mohamed.
Oui, bonsoir tout le monde.
Il y a Achille à la technique.
Bonsoir tout le monde.
Et puis, ben, y a moi, ouais. Anne, et Arnaud n'est pas là. Mais Arnaud, mais où est-il, Mohamed, oui, Arnaud?
Arnaud, il est parti pour une l'OFPRA, Office française de protection, pour le dire bonsoir. Voilà, bonsoir, voilà. De son côté et tout.
Bonsoir.
Le frère, un coucou.
Voilà, et il est parti avec Bernard, donc oui, Bernard Moreau, tous les deux à une réunion.
Voilà, notre coucou de la part de l'asso.
Voilà, une réunion OFPRA. Ouais. Donc, autant vous dire que, bah justement, l'OFPRA.
Ouais.
On va vous en toucher deux mots maintenant parce que il s'est passé quelque chose aujourd'hui qui, dont on parle déjà depuis un bon moment, un fameux vote à l'Assemblée nationale. Et donc, Mohamed, tu as travaillé là-dessus, je crois.
Oui, oui, tout à fait.
Tu nous as trouvé des renseignements. Alors, bah, écoute.
Oui, tout à fait.
Vas-y.
Voilà, le Parlement a voté aujourd'hui, voilà, pour un délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile ne puissent accéder à la protection universelle maladie, la PUMa. Plus exigeant sur l'accès aux soins, plus ferme face aux abus et davantage soucieuse des filières économiques en tension, Édouard Philippe a dévoilé ce mercredi 6 novembre 20 mesures sur l'immigration après un mois de polémique amalgamant ce sujet au communautarisme et à la laïcité.
Alors, on ne va pas toutes les détailler, on a pris que les plus grosses, hein, quand même. Ouais, Mohamed, il a
tout
choisi.
À fait.
Vas-y.
Comme entendu, et malgré les protestations des associations, le gouvernement va instaurer un délai de carence de 3 mois avant que le demandeur d'asile ne puisse accéder à la protection universelle maladie PUMa. On a annoncé l'AFP des sources parlementaires concordantes. Jusqu'à présent, les demandeurs d'asile avaient droit à la PUMa dès le dépôt de leur demande. Mais la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est récemment élevée contre un dévouement de la PUMa par des demandeurs d'asile venant de Géorgie et d'Albanie, qui sont a priori des pays sûrs.
Alors bon, vous n'êtes pas arrivé de Géorgie ni d'Albanie. Alors, je vais vous poser une question, les gars, vous allez me répondre pour de vrai.
D'accord.
Évidemment, est-ce que vous êtes venu en France pour vous faire soigner ?
Concernant mon cas, moi, je dirais non, parce que je savais même pas que, voilà, une fois en France, j'allais avoir accès, voilà, à ce genre de services et tout. Moi, l'essentiel qui m'a enlevé ce mois, c'était, voilà, le souci de sauver ma peau, de trouver un endroit où, voilà, me protéger et tout. Donc, je suis venu dans ce cadre. C'est une fois, bien en France ici, que, voilà, avec les services et tout, j'ai eu des informations me disant qu'une fois que tu introduis une demande d'asile, tu as droit à te soigner gratuitement. Bah, c'est ici que je l'ai su, mais pas avant de venir en France. Donc, je dirais pas oui, pas voilà, parce que moi, l'essentiel, c'était de sauver ma peau.
Mmh. D'accord. Et toi, Achille, alors, tu es venu pour te faire soigner en France ?
Non, non, non. Je ne suis pas venu pour ça. Vu qu'en quittant mon pays, c'est pareil, comme Mohamed est en train de le dire. C'est une fois arrivé ici que voilà, une fois qu'on a lancé la procédure, on vous oriente et on vous dit voilà, vous avez droit à l'assurance maladie. Et c'est ici que j'ai découvert que voilà, c'était possible.
Mmh, d'accord. Alors vous... Donc c'est un dispositif réservé aux sans-papiers, je crois. C'est ça que tu vas nous dire après. Hein.
Oui, tout à fait, tout à fait. Notamment aux personnes qui sont en demande d'asile. Voilà.
Mm-hmm.
Donc le dispositif est réservé aux sans-papiers et régulièrement au cœur de controverses pour son caractère supplémentaire dispendieux. L'aide médicale d'État AME, qui bénéficie à 318 000 personnes, n'est pas directement touchée. Mais désormais, certains actes non urgents pourront faire l'objet d'un accord préalable de la Sécu sociale.
Alors en fait, ça signifie pour, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais ça se fait aussi pour les gens qui sont nés en France. Quelquefois, il faut produire un dossier pour justifier auprès de la Sécurité sociale de la dépense nécessaire pour soigner une maladie. D'accord. Et là, bah, ce sera le cas. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus être soigné directement comme ça, les demandeurs d'asile et compagnie. Parce qu'en fait, il faudra d'abord aller voir un médecin, produire un dossier, l'envoyer à la Sécurité sociale qui calculera le coût total pour être soigné, alors une opération, etc. Hein, c'est généralement des trucs un peu plus costauds, qui seront considérés comme non urgents et qui feront donc l'objet d'une étude approfondie de la Sécurité sociale pour dire oui, on est d'accord, on paye, ou non, on n'est pas d'accord, on ne paye pas.
Tout à fait, Anne. Ces retouches à la Puma et l'AME ont figuré aujourd'hui dans les amendements du gouvernement examinés à l'Assemblée dans le cadre du budget santé. Le Premier ministre a d'ores et déjà insisté sur la nécessité de lutter contre les fraudes et les abus. Il a rejoint Emmanuel Macron qui a appelé dans sa récente interview à Valeur Actuelle à régler vite la question des gens qui viennent avec un visa touristique qui reste 3 mois et ensuite se mettent à l'AME. Davantage de contrôles devront aussi être exercés sur les bénéficiaires de l'aide aux demandeurs d'asile ADA qui toucheraient, selon le gouvernement indûment, en même temps le revenu de solidarité active RSA.
Alors, encore une fois, puisque j'ai des témoins directs avec vous, vous touchez l'ADA et le RSA, Mohamed ?
Moi non, parce que d'abord je suis un ancien Dubliné.
Voilà. Alors, Dubliné, ça veut dire que tu es arrivé pas directement en France.
Oui, effectivement, hein, je suis passé par l'Espagne et voilà, la France dit que voilà, c'est l'Espagne qui m'a placé pour étudier voilà, ma demande et tout. Donc, il fallait que je retourne en Espagne. Donc, voilà, la France ne doit pas s'occuper un peu de ma demande d'asile et tout. C'est ce qu'on appelle un peu Dubliné, ça a été voté à Dublin, d'où le nom Dubliné.
D'accord.
Ben, voilà, donc, moi, je suis un ancien Dubliné. Actuellement, je suis en procédure, appelée accélérée. Et avant, j'avais droit à l'ADA. Simplement à l'ADA, et pendant 3-4 mois, voilà, j'ai touché à l'ADA. Mais une fois voilà, que ma procédure Dublin a été voilà, activée en tout, les 18 mois et tout, j'ai tout perdu, donc je ne touche rien, même actuellement, parce que quand tu reviens en procédure accélérée, tu n'as plus droit à l'ADA. Voilà, et donc je ne touche pas d'ADA, et voilà, je suis juste en procédure, mais je ne touche pas d'ADA.
D'accord. Et toi, Achille, toi, tu n'es pas en procédure Dublin. Toi, tu es arrivé directement en France, si
oui.
J'ai bien compris.
Oui, oui, je suis en procédure normale, donc ce qui fait que moi, je ne touche que l'ADA, oui, depuis mon arrivée.
Ouais.
Oui.
Donc tous les mois, tu as un petit peu d'argent.
Oui, une somme qu'on reverse.
D'accord. Et alors, tu ne touches pas le RSA non plus ?
Non, pas du tout. Le RSA, c'est quand on a le statut de réfugié. Et quand on est reconnu, c'est là où on a droit au RSA. Mais
d'accord.
Sinon, quand on est dans la procédure, que ce soit normal ou Dublin, on a droit à l'ADA.
D'accord. Alors, la ADA, ça veut dire aide aux demandeurs d'asile.
Oui, aide aux demandeurs d'asile.
D'accord. Voilà, donc, tant qu'on est en demande d'asile, on touche l'ADA. Oui, et quand on n'est plus en demande d'asile parce qu'on l'a, on ne touche plus l'ADA non plus.
Oui.
Et juste une parenthèse, une brève parenthèse sur ça aussi, sur l'ADA. Voilà, il faut savoir qu'actuellement, ça s'est endurci aussi avec l'ADA, parce que les demandeurs d'asile, les DA notamment, n'ont plus droit à retirer de l'espèce avec leur carte, c'est-à-dire de l'argent liquide. Vous voyez un peu, la carte actuelle d'ADA, notamment doit servir qu'à payer de quoi manger, voilà, ainsi de suite, sachant que voilà, ils sont confrontés à plusieurs trucs, leur ticket de bus et tout, voilà. Donc là, actuellement, c'est juste réservé pour, voilà.
Ah, vous avez une carte, une carte de paiement.
Oui, au FI, une carte de paiement au FI, de la poste.
Et vous n'avez plus le droit de retirer de l'argent liquide. Avec,
voilà. Il faut utiliser la carte, voilà, soit tu fais des achats, tu achètes des habits et tout, mais... Franchement, tu ne peux pas retirer de l'argent avec, même s'il te faut retirer de l'argent pour que, si tu as un rendez-vous dans le bus, pouvoir t'acheter un ticket, tu ne peux pas actuellement.
D'accord.
Parce que voilà, voilà. Donc, c'était juste une parenthèse sur l'ADA actuelle.
Ce n'est pas seulement au niveau du bus, il y a aussi au niveau des bureaux tabac.
Oui.
Où la carte ne fonctionne pas, ça, c'est tout un calvaire là.
Tout à fait.
Ah oui, on préserve ta santé en fait.
Oui, ou parfois on t'exige que si la carte elle doit fonctionner, tu dois au moins acheter au minimum 10 euros. Et bien voilà. Donc il y a plein de trucs tout autour, mais voilà.
D'accord. Ah oui, donc c'est produits de première nécessité, quoi. Voilà. En gros, nourriture, vêtements.
Effectivement.
Ah oui, super. Très bien. Bon, ben voilà, on en apprend toujours plein. Merci au gouvernement de voter des trucs qui nous font parler.
Donc,
Alors ensuite, il n'y a pas que ça, je crois. Il n'y a pas que cette histoire de protection sociale. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu?
Oui, parmi les décisions déjà dites d'ouverture, il consistera à l'instauration de quotas par secteur d'activité, annonce Le Parisien. L'idée est d'avoir un débat annuel au Parlement pour ajuster la liste des métiers qui ont besoin de main-d'œuvre. Une mesure confirmée par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sur BFM TV ce mardi 5 novembre.
D'accord. Alors en fait, là, ça, il faut bien réaliser que ça veut dire qu'on va faire nos courses. En fait, donc on va accepter des gens qui peuvent servir dans nos industries.
Oui, selon les secteurs qu'on a besoin.
Selon les secteurs d'activité.
Oui.
Et donc on va les accepter. On va vraiment faire des quotas de nécessité selon le travail nécessaire. Mmh. Bon, j'imagine que ça va pas empêcher non plus de prendre des gens qui sont en danger dans leur pays et qui sont pas dans des pays, ce qu'on appelle les pays sûrs, qui, rappelons-le, sont des pays dont on estime qu'ils n'ont pas de loi. Et pas d'habitude légale de poursuivre les homosexuels et les LGBT en général. Et donc, ce sont des pays sûrs dont on parlait tout à l'heure. Donc, bref, il y aura plus de... disons,
oui, tout à fait.
Un passoire. Quoi. Oui. En gros, on passe par la passoire ou on ne passe pas par la passoire. Alors, il y a plus là-dessus, peut-être?
Oui, par rapport à ça, déjà, le gouvernement avait dit souhaiter trouver un dispositif permettant de s'ajuster en temps réel aux besoins de nos entreprises, ce qui faciliterait l'immigration économique légale. Dans cette perspective, le détail des filières en tension datant de 2011 va être actualisé. Il va y avoir jusqu'en avril un gros travail pour revoir la liste des métiers à autorisation de travail. Cela donnera des listes plus proches des territoires et des objectifs fixés annuellement, a indiqué le député d'LRM, Raphaël Gauvin. Autre point crucial, la réduction des délais d'instruction des dossiers pour les demandeurs d'asile. La loi votée en 2018 n'a pour l'heure pas produit les effets escomptés. Avec un délai moyen de 12 mois au lieu de 6 mois espérés, dans un contexte de forte augmentation des demandes, selon Matignon. Dans ce cadre, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, et la Cour nationale des droits d'asile, CNDA, devraient se voir attribuer des crédits supplémentaires.
Et là, pour le moment, on en sait pas plus.
Ouais.
Mais c'est peut-être le sujet de la réunion de ce soir à laquelle participent Arnaud et Bernard et d'autres associations qui sont conviées généralement quand il y a des réunions pour discuter. Bon, ben, Voilà. On a un peu lutté contre, mais bon, ouais, ma, ouais. Foi, ma foi, c'est arrivé. Donc, on va continuer à étudier ça de très près.
Oui, ouais, de manière très près. Ouais.
Merci pour ta super lecture, Mohamed. Pris hop là, au dépourvu. Parce que bah, voilà, c'était aujourd'hui, ouais. Cet après-midi. Quant à moi, je vais vous parler maintenant d'un événement, quelque chose qui s'est passé à Angers. Océan est venu.
Ah d'accord.
Alors, vous allez dire, c'est déjà le réchauffement climatique. Non. Alors, je ne sais pas si vous avez connu Océane Rosemary, humoriste, qui a fait un spectacle qui a tourné beaucoup et qui a été très, très plaisant et beaucoup, beaucoup vu. La lesbienne invisible. Océane, en fait, était océan. D'accord. Et a fait son coming out devant sa famille et a décidé aussi. Océan a donc décidé de faire une série de courtes vidéos pour montrer sa transition pendant une année. Ouais. Alors ça, vous pouvez les voir sur France TV/. Ouais. Ça, vous pouvez les regarder. C'est gratuit. Vous allez sur France TV/ et vous tapez Océan et puis vous allez pouvoir tous les regarder. Mmh. On va écouter une partie si on arrive à faire fonctionner le système.
D'accord.
On va écouter une partie de ce coming out auprès de sa famille.
D'accord. Et il n'y a pas un document ou un bouquin sur ça, justement ?
Non, il y a un bouquin, mais pas d'océan.
D'accord.
Attendez, juste un petit instant. Voilà. Allez, on va essayer. C'est parti !
J'ai réussi à être parfaitement heureuse dans cette identité. J'ai longtemps pensé que ce sentiment d'être différente était dû au fait de mon orientation sexuelle. En grandissant, grâce à de multiples rencontres, grâce à vous aussi qui avez su évoluer, j'ai même réussi à convaincre ma mère que c'était super d'être lesbienne, et croyez-moi, il y avait du boulot. J'ai pensé que je pourrais m'épanouir, être vraiment heureuse et apaisée. Mais quelque chose résistait encore, et un jour j'ai compris cette fascination que j'avais pour les corps des hommes. Ils m'obsédaient car j'aurais voulu être eux, avoir ces corps qui m'étaient inaccessibles. J'ai donc compris il y a un peu plus de 2 ans que je voulais changer de genre. Je dis bien de genre et pas de sexe, car ce qui m'intéresse de changer, c'est la perception sociale que les gens auront de moi. J'ai 41 ans demain, et je vous le dis, je suis épuisée d'être une femme. Littéralement épuisée. J'ai donc choisi pour mon nouveau prénom de m'appeler Océan. D'enlever simplement ce E qui féminise. Je vous en parle seulement maintenant, alors que j'ai déjà enclenché le processus, parce que je suis là pour vous informer de ce choix que je fais, pas pour vous demander l'autorisation, et surtout pour vous remercier. Vous remercier pour tout l'amour que vous m'avez toujours donné, et que vous donnez les uns aux autres. C'est cet amour-là qui nourrit notre belle famille, qui me permet notamment d'avoir assez confiance en moi pour prendre ce chemin, pour faire ce choix d'être moi-même, de vous l'annoncer, seule face à vous tous, sans avoir peur de vous perdre. Je vous aime infiniment. Alors merci.
Voilà comment Océan a annoncé à sa famille sa transition. Donc vous avez entendu ce qui s'est passé. Alors il y a 10 épisodes, hein, et il y a vraiment tout dans ces épisodes. C'est ça qui est vraiment, vraiment impressionnant, c'est qu'il y a, les passages, et franchement c'est léger. En fait, c'est assez léger. Alors, rien n'est léger dans la transition en elle-même, d'accord ? Mais c'est bien fait, et puis bon, on sent que Océan, à la fin, est heureux, ce qui est quand même le principal. Mais bon, on a droit à la première piqûre d'hormones, qui... qui est pas très réussi là, avec des amis, et c'est vraiment extraordinaire parce qu'on le voit, on le voit vraiment de l'intérieur. C'est quelque chose que nous a offert Océan et qui est formidable parce que on n'imagine pas ce que ça peut être. On imagine un peu, mais on n'imagine pas vraiment ce que ça peut être, à moins de connaître quelqu'un qui ouais. est passé par là. Ouais. Et là, c'est vraiment ouvert à tous. Et Océan insiste sur le fait qu'il pense que la communauté a aussi besoin d'entendre que ça peut bien se passer dans l'ensemble. Donc, il dit « J'ai fait ce projet pour les mamans qui s'inquiètent et pour les jeunes trans. » Je viens raconter mon histoire, mais je parle pas au nom de tous les trans. On n'a pas du tout la même perception de notre genre, c'est juste un témoignage. Alors, à un moment donné, dans le documentaire, la mère d'Océan, parce que tout le monde a été filmé ouvertement, c'est vraiment extraordinaire. Ces gens ont vraiment donné tout leur cœur, en fait. La mère d'Océan, donc, émet dans le documentaire de nombreuses réserves quant au changement de sexe de son enfant. Il était important pour Océan, bien sûr, qu'elle soit là. Je savais qu'elle serait une porte d'entrée pour beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément la transidentité et qui ont quand même envie de bien faire. Je savais qu'elle évoluerait pendant toute cette année. Je ne vous cache pas que j'espérais qu'elle évolue plus vite et qu'à la fin du doc, elle m'appelle Océan et qu'elle me dise « tu es mon fils ». Mais ça a fini par arriver, c'est quelque chose qu'elle a fait juste après que j'ai fini de tourner. Il espérait l'avoir dans le documentaire, et en fait non. Et il y a des phrases qui sont vraiment extrêmement fortes dans toute cette histoire. Encore un commentaire d'Océan, le genre est vraiment une construction sociale avant tout. Ce sont des fictions politiques qu'on a inventées. Et ça inquiète beaucoup les gens. Ma génération a déconstruit ce discours-là. On essaie d'amener de la complexité. Et en fait, c'est ça toute l'idée. Toute l'idée, c'est un combat, quelquefois rude, quelquefois soft, mais ce qu'on fait en fait nous aussi pour d'autres sujets, c'est un combat. On est toujours un petit peu guerrier dans ce qu'on affirme et dans ce qu'on dit et dans ce qu'on vit. Et là, Océan qui a filmé tout ça, c'est vraiment extraordinaire. On a ces amours aussi, parce que ces amours d'hommes, et c'est tout ça d'hommes trans, et c'est tout ça qui compte. On parle aussi d'opérations, on parle évidemment de médecins, on parle de tout ce qu'il y a autour de la transidentité. Alors surtout il y a des mots qu'il faut pas dire, d'accord, transsexuel par exemple. Ça, c'est pas passer d'un sexe à l'autre, c'est juste être soi-même. Oui. Donc ça, c'est vraiment un mot qui est banni, et en plus qui blesse les trans. C'est pas qu'une histoire de sexe. Alors il y a aussi un mot moins importants que vous allez entendre énormément dans les documentaires. Le mégenrage. Le mégenrage. Donc, c'est expliqué par Océan. Plus de gens savent que lorsqu'on parle de personnes trans au passé, on les genre malgré tout dans leur genre de destination. Donc, d'accord. Donc, on dit, à propos d'Océan, dit « il ».
Oui, tout à fait.
Même pour le passé.
Oui.
D'accord. OK. Et c'est très, très important. Mais c'est à partir du moment où les gens le demandent. Parce qu'il y en a aussi qui disent non, bah pour le moment pas, peut-être plus tard, etc., etc. Ça, c'est aussi. Et alors, il parle énormément des cisgenres. Alors, les cisgenres, qu'est-ce que c'est ? Les cisgenres, ce sont les personnes qui sont en adéquation avec leur genre assigné de naissance. D'accord ? Pour prendre mon cas, je suis une cisgenre. Je suis née femme, je suis une femme, et je suis une femme. Toi aussi, t'es un cisgenre, en plus d'être guinéen.
Tout à fait.
D'accord ? Donc, ouais. Cisgenre, c'est le contraire des trans.
Ouais.
Océan précise qu'on utilise le mot cisgenre pour pas qu'il y ait des gens normaux et les trans.
Oui, tout à fait.
D'accord, il y avait le mot trans, donc il faut inventer un mot pour ceux qui ne le sont pas, sans parler de normalité, bien entendu. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui est normal, tout ça. D'accord, c'est extrêmement important. Donc là, Océan est comédien, humoriste que l'on connaissait avant l'année dernière, donc enfin l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, comme Océane Rosemary. On est là tout le temps. Le jour où il annonce à sa famille, donc ça, on l'a entendu, qu'il ne faut plus dire elle en parlant de lui. Et on est là aussi donc pour la première piqûre de testostérone. C'est un grand moment. Et toutes ces suivantes, le rendez-vous avec le chirurgien, l'opération, on voit la réaction des amis, de la famille. Et puis, ça, comme je vous le disais, sa vie amoureuse aussi, où Océan fait des découvertes. Ouais. Extraordinaire. Donc, c'est vraiment une série documentaire qui vaut la peine et qui est à voir et à revoir sur le site France TV. Slash. D'accord ? C'est vraiment, allez-y, vous cherchez sur France TV slash, vous cherchez Océan, et ben vous verrez que c'était vraiment, vraiment un gars heureux, Océan. Donc voilà, et ça apprend plein de choses. Parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'extrêmement mystérieux. Hein. Océan nous prouve là-dedans qu'il prouve à tous qu'on peut faire sa transition de genre et que ça peut être cool. Il a fait une transition encore du vocabulaire. Une transition F to M, female to male. Et donc, ça s'est passé sur France TV slash. Et c'est accessible jusqu'à 2022.
D'accord.
Donc, vous avez le temps. Mais moi, je serai vous, j'irai le voir maintenant. Et puis, j'irai le revoir après. Et puis, j'y retournerai le voir parce qu'il y a des moments où il y a des moments poignants. Il y a des moments très drôles, franchement. Océan a des amis extraordinaires. Et il y a des moments qui sont vraiment très, très, très beaux et très, très, très édifiants, disons. C'est un mot pas très beau, mais enfin, tant pis. Donc, il s'est filmé pendant un an et il a documenté sa transition d'une façon absolument formidable. Et le tout d'une façon soft et très... C'est vraiment quelque chose, moi, j'ai découvert. Et donc, Océan est venu à Angers cette semaine. Pour présenter son film, parce qu'il y a un film qui va sortir, pour le moment c'est que des avant-premières, qui va sortir, et Océan en fait donc sera à chacune des projections de ce film, qui est en fait tous ces épisodes mis bout à bout. D'accord, mais c'est vrai qu'aller voir avant c'est bien aussi. Et donc là il y a les commentaires d'Océan, on peut poser les questions. Et on peut poser toutes les questions parce qu'il est toujours prêt à répondre à toutes les questions. Simplement, gentiment. Et bon, il faut faire un effort, hein, prendre le coup de cisgenre, il, etc. etc. Mais ça, c'est pas très compliqué, il suffit de voir les documentaires avant. Et donc, faire attention, il y a aussi quelques questions qui, quelquefois, le choquent. Et là, mardi, il y a eu un moment... C'était chaud, il faut bien dire. Mais c'est normal, parce que c'était une question qui n'était pas très agréable. Vous pouvez voir Océan et donc le film à Nantes, le 15 novembre. Vous cherchez Océan, Nantes, 15 novembre, et puis vous allez voir ça. Et vous allez pouvoir le voir, lui, en vrai, pour de vrai, et lui poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop dithyrambique. J'ai essayé de rester un peu calme et efficace, mais j'ai vraiment trouvé ça absolument génial. Alors maintenant, on va passer de la musique, c'est Judy Garland qui va nous chanter Over the Rainbow.
Thank you.
I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do. Wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where
Judy Garland. Over the Rainbow, en fait, c'est le choix de quelqu'un qui va nous appeler. Un petit peu plus tard, il faut que je fasse taire mon... Voilà. C'est quelqu'un qui va nous appeler et c'est une sœur de la perpétuelle indulgence que nous allons interviewer. Mais en attendant, un peu de légèreté dans un monde de brut. On va parler de foot.
Ouais.
Vas-y,
ouais, on va parler de foot. On va parler de foot, voilà. On va pas non plus parler, voilà, de slogans hostiles, voilà, contre les LGBT,
bah non.
Quelque chose qui est déjà bien.
Bah non.
Voilà. Parce que là, je vais vous parler de la Coupe du Monde 2022. Et pour surprise, je vais vous parler de Qatar. Parce qu'on sait tous que voilà, elle va être organisée au Qatar.
Mm-hmm. Bien sûr.
Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que les supporters transgenres et homosexuels seront les bienvenus à la Coupe du Monde de football 2022. Je vous dis très bien.
Ah, bonne nouvelle.
Voilà. Bon, qui se déroule là, bien sûr, au Qatar. A déclaré responsable de l'organisation de la compétition, précisant que les coutumes locales devront être respectées. Le comité d'organisation de la Coupe du Monde masculine de football 2022 au Qatar a indiqué que les supporters transgenres et homosexuels seraient les bienvenus pendant la compétition, alors que la loi locale interdit l'homosexualité et n'est pas claire sur les personnes transgenres. Je tiens à assurer à tous les fans que, quel que soit leur genre, leur orientation sexuelle, leur religion ou leur race, que le Qatar est l'un des pays les plus sûrs au monde et qu'ils seront tous les bienvenus ici. La sécurité de tous les supporters est la plus haute importance pour nous, et de la plus haute importance pour nous, a déclaré cette semaine Nasser Al-Khater, interrogé par plusieurs journalistes. Il a toutefois prévenu que les manifestations publiques d'affection, voilà, sont désapprouvées, tout comme l'alcool ne fait pas partir et de la culture du pays. Il a toutefois fait savoir si des poursuites pouvaient être engagées si des couples homosexuels devaient s'embrasser sur la voie publique. Bon, concernant l'alcool, Nasser nous rassure et a développé. Pour la Coupe du Monde, nous voulons nous rassurer que l'alcool soit accessible aux fans qui viennent de l'étranger et qui veulent prendre un verre. Il a ainsi évoqué les droits désignés pour consommer. En plus de la petite dizaine d'hôtels de luxe autorisés à servir des boissons alcoolisées, où le prix de la pinte de bière avoisine les 10 euros. Le Qatar s'entend recevoir un peu plus d'1 million de supporters pour ce premier mondial organisé par l'État arabe
et du Proche-Orient. L'événement constitue un enjeu de sécurité majeur pour Doha, dans une région secouée par les tensions et où l'Émirat est lui-même soumis au boycott de ses principaux voisins qui l'accusent de soutenir les islamistes et les lions avec l'Iran, ce que Doha nie. Voilà, et est-ce pas une bonne nouvelle? On se prépare pour la Coupe du Monde 2020.
C'est une très belle nouvelle.
Voilà. Donc on se prépare pour la Coupe du Monde 2020.
C'est la fête du football. Donc, du coup, on invite tout le monde et voilà. Il faut qu'elle soit.
Et moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Et voilà, ça devrait être des trucs comme ça partout dans le monde. Voilà. Et c'est important. C'est quand même une initiative importante. Reste à savoir comment est-ce que ça se passait. Voilà.
Non, ça va bien se passer vu que c'est pas aujourd'hui qu'ils organisent les compétitions de football.
Ouais.
Donc, au Qatar, il y a des championnats, donc ils devaient assurer tout, que ce soit au niveau de la sécurité, comme ils l'ont si bien dit, et que peut-être au niveau aussi de... C'est pas tout le monde qui ne boit pas, donc on peut pas défendre à celui qui, après avoir regardé un bon match de football, il faut se détendre, qu'on perde ou qu'on gagne, il faut... Pour moi, c'est la fête et certains profitent, ils prennent ça comme des vacances. Donc, certes, c'est un pays qui a ses lois, qui a, je ne sais pas comment qualifier ça, mais on sait tous que c'est un pays musulman. Mmh. Donc, ils ont leur religion, mais après, ils ne vont pas quand même empêcher les invités de s'amuser.
Oui, justement, c'est à ce niveau que ça reste un peu ambigu, parce que on voit un peu plus haut qu'on nous parle de mœurs. Et voilà, pour moi, ça laisse à réfléchir, mais voilà. Comme ils l'ont si bien précisé, tout le monde est bienvenu et tout, sauf ils ont encore mis un point. Il n'est pas permis aux couples homo ici de manifester leur affection en public. Donc voilà, ça reste beaucoup à réfléchir. Mais bah, pour moi, c'est déjà un bon pas. C'est bien que voilà, dans ce genre d'état, notamment, il faut encore reconnaître qu'il y a cette notion d'économique. Parce que voilà, vu tout ce monde qui va venir, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas nier que, voilà, que tu sois homo ou pas, nous avons des passionnés de football. Donc, pour moi, ça reste à réfléchir, mais c'est quand même une bonne initiative. Et je ne sais pas ce que tu en penses aussi, Anne, par rapport à tout ça.
Pas grand-chose. Mais c'est vrai que le Qatar, je ne suis pas trop sûre. Mais bon, on va leur donner le bénéfice du doute.
Tout à fait, c'est comme moi.
Parce qu'il faut être gentil, bon et doux dans la vie, comme les sœurs de la perpétuelle indulgence. Parce que là, ça y est, on a maintenant sœur Marie-Gaude, qui est au bout du fil.
Bienvenue.
Alors,
allô.
Voilà, sœur Marie-Gaude, vous m'entendez?
Oui, bonsoir Anne, bonsoir.
Bonsoir. Alors voilà, vous nous parlez des Charentes pour le moment, c'est ça?
Oui, Charente-Maritime. Oui, tout à fait. C'est là où se trouve le couvent déchaîné.
D'accord. Vous parlez depuis le couvent déchaîné.
Voilà.
Bien. Alors, ma sœur.
Oui.
Il y a un grand événement cette semaine à Angers.
Oui.
Un événement qui nous touche évidemment, puisque c'est l'inauguration des nouveaux locaux de Quasar.
Oui, d'accord.
Et c'est en partie à cette occasion que vous allez monter, je crois, en force à Angers.
Oui,
puisque
tout à fait.
Je crois savoir qu'il y aura des sœurs. Des novices, des gardes-cuisses, des aspirants gardes-cuisses et une postulante qui viennent. Alors tout ça, donc vous venez de votre couvent déchaîné, couvent, sœur, novice, c'est très très religieux tout ça quand même.
Oui, disons que nous avons un petit peu singé, si on veut, entre guillemets, ce que fait l'Église catholique, tout à fait, voilà.
D'accord. Donc, les sœurs, vous êtes les sœurs de la perpétuelle indulgence, c'est ça? Donc, vous êtes bonne et douce et tout ça, c'est ça?
Ah oui, bonne, douce, dans la joie, la paix, l'amour et le respect.
C'est parfait. donc, d'où sortent les sœurs de la perpétuelle indulgence? C'est chez vous que ça a été créé?
Non, je vais vous faire un historique rapide parce que ça peut être lent. Non, les sœurs de la perpétuelle indulgence ont été créées en 1979 à San Francisco aux États-Unis. Et c'était au départ une action, une association de d'action de visibilité. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, comme même encore aujourd'hui, dans chaque bar gay, lesbien, hétéro, cuir, etc., les gars, quand ils y allaient, ils entendaient dire du mal des gays, des lesbiennes. De chaque bar, disons, disait du mal des uns et des autres. Et donc, c'était un groupe de quatre copains qui en avaient marre d'entendre du mal des uns et des autres et qui sont arrivés à Pâques en 79, le lundi de Pâques. Ils sont arrivés avec des mitraillettes pour faire une blague dans un bar en disant, ben voilà, il n'y a plus de gays, il n'y a plus d'hétéros, il n'y a plus de lesbiennes, il n'y a plus de cuir. Tout le monde doit s'aimer en respectant ce que font les autres et s'aimer sexuellement et partager, etc., etc. Donc, d'une blague, ils ont été appelés dans d'autres bars. Et c'est devenu une sorte de spectacle qu'ils ont fait, et donc c'est devenu une action de visibilité. Ensuite, en 1981, sont apparus les premiers cas de sida aux États-Unis, et en particulier à San Francisco. Et là, les sœurs ont pris en charge cette maladie en faisant des spectacles de rue pour récolter de l'argent, pour payer les médicaments à certains malades qui ne pouvaient pas, pour les accompagner en fin de vie, pour les accompagner, aider les familles qui avaient des pertes d'enfants, de maris, etc., qui étaient touchés par cette maladie. Et donc, d'une association de visibilité, c'est devenu une association de visibilité et de lutte contre le sida et les IST,
de compassion aussi.
Pardon.
Et de compassion aussi.
Et de compassion, voilà.
Alors, parce que je crois que à cette époque épouvantable des débuts du sida,
oui.
Les malades, personne n'osait trop les toucher parce qu'on avait peur de la peste.
Oui.
Et aux obsèques, c'était pire que tout. On les mettait dans des sacs en plastique, je crois.
Tout à fait. Alors, les hôpitaux les mettaient dans des sacs en plastique et à charge aux familles de les récupérer. Mais il y avait aussi des familles qui avaient rejeté leur enfant parce qu'ils étaient homosexuels et en plus malades du sida. Et à ce moment-là, les sœurs, avec l'argent qu'elles avaient, se chargeaient des obsèques de certains malades du sida ou alors accompagnaient les familles qui avaient un très gros chagrin de la perte de quelqu'un qui leur était très très proche.
Et je crois que cette sœurs, occasion, justement, toujours dans l'optique de singer, comme vous le dites, les catholiques, les chrétiens qui sont pleins de bonté et qui aiment leurs prochains comme eux-mêmes, vous faisiez des messes, je crois.
Tout à fait, oui. Alors, parce que les bonnes sœurs, en principe, les bonnes sœurs, c'est la charité, la bonté, hein, voilà. Et donc, elles ont fait ce qu'on appelle des messes, comme dans l'Église catholique, des messes qui sont en réalité des spectacles où elles prenaient des chansons, elles mettaient des paroles dessus, concernant le sida, la prévention, etc. Et elle faisait des spectacles pour récolter de l'argent. Voilà.
Alors donc, des USA, les sœurs ont essaimé des missions et des couvents, si j'ai bien compris, au Canada, en Grande-Bretagne, en Allemagne.
Tout à fait. Et en France, les premières sœurs de France sont parues en 1991 et c'était à Paris. Et c'était des journalistes de Guépier qui avaient été à San Francisco.
Guépier, c'était un magazine, un magazine gay de l'époque.
Gay, homosexuel, LGBT à l'époque, quoi.
Ouais, c'est ça, mais on disait pas LGBT.
Il n'y avait pas LGBT à l'époque, mais voilà, c'était un magazine qui est un journal, d'ailleurs. Au départ, c'était un journal, hein. Après, c'est devenu un mensuel, je crois, ou voilà. Et donc, c'est ces journalistes qui ont vu ces sœurs et qui sont revenus à Paris et ont créé à Paris le premier couvent. Voilà.
Le couvent de Paris, c'est ça?
Le couvent de Paris, tout à fait.
D'accord.
Voilà.
Et alors, maintenant, à Paris, il y a deux couvents, si j'ai bien
compris.
Voilà,
tout à fait. À Paris, il y a le couvent de Paris et le couvent de Paname.
D'accord.
Voilà. Et ensuite, dans le pays, en France, il y a d'autres couvents qui sont répartis. Il y en a deux à Lyon, il y en a un à Montpellier, il y en a un en Charente-Maritime. Enfin, Charente-Maritime, Grande-Aquitaine, hein, puisque maintenant on fait tout ça. Mm-hmm. Il y en a un à Lille, il y en a un à Rouen, il y en a un à Poitiers. Le dernier qui s'est créé, c'est le couvent de Poitiers.
D'accord. Ouais. Alors moi, bon, faut bien admettre que j'aime beaucoup les noms des couvents, bien entendu. Donc il y a le couvent de Paris qui est le couvent le plus ancien.
Oui.
Le couvent de Paname. Ensuite, des gens sont partis de Paris, ils ont déménagé et ils ont créé des couvents ailleurs.
C'est exact.
Ça. Alors donc le couvent, je vais pas les faire dans l'ordre chronologique, hein, peut-être, mais bon, il y a le couvent d'Oc. De
oui,
Montpellier.
Le couvent d'Oc, c'est celui de Montpellier.
À Lyon, il y a les 69 Gaules.
Oui, et les Traboules.
Et les Traboules. À Lille, le couvent d'Ouille. Évidemment, comme il y a une mère abbesse dans chaque couvent, bon, voilà. La mère du couvent d'Ouille s'appelle évidemment la mère d'Ouille, n'est-ce pas? Évidemment.
Oui.
Le couvent d'Alors, donc.
Oui.
Et puis le couvent des SDF à Poitiers. Pourquoi?
Alors, couvent des SDF, pourquoi? Alors, SDF, c'est sans domicile fixe ou sort de France. C'est comme vous voulez.
Ah, mais sans domicile fixe,
c'est pourquoi
ça.
Parce que la sœur qui a créé le couvent de SDF à Poitiers, que vous connaissez bien, qui est sœur Kékette,
oui.
Elle était à Paname avant. Et donc, quand elle a quitté Paris pour s'installer à Poitiers, elle a créé son propre couvent, le couvent des SDF à Poitiers.
C'est ça, parce que oui, effectivement, sœur Kékette, on la connaît, elle est venue à la Pride
oui,
à Angers.
Tout à fait, c'est ça.
Et alors, bon, évidemment, le couvent qui nous intéresse le plus, bien entendu, parce que c'est quand même de chez vous que vont venir toutes les sœurs, les gardes-cuisses, les novices, etc., ce week-end pour évangéliser Angers.
Tout à fait.
Et bénir nos locaux pour nous protéger de toutes les affreusetés qui peuvent être inventées contre les LGBT d'une façon générale.
Tout
et donc, le couvent, c'est le couvent déchaîné.
Oui.
Enfin, déchaîné. Donc, déchaîné.
Et
des chênais, les forêts de chênes. Mais,
oui,
mais
alors,
c'est parce que c'est le lieu dit où vous habitez ou c'est quoi?
Alors, c'est le lieu dit, enfin, si vous voulez, non. On a créé le couvent déchaîné parce que, bon, en pensant au chêné. Et pourquoi? Parce que dans la forêt déchaînée, c'est là où l'on trouve le plus de glands.
Voilà, les glands sont les fruits des chênes.
Les glands qui sont, voilà.
Voilà, donc vous faites preuve d'un naturalisme.
Voilà, nous sommes très naturalistes. Voilà, et puis aussi parce que au couvent déchaîné, il y a une mer. Et oui. Qu'on dit que souvent, la mer est souvent déchaînée.
D'accord, et la mer, c'est vous,
et sœur, mère, c'est
sœur Marigotte, c'est ça?
C'est ça. Sœur Marigotte, mère du couvent.
D'accord.
Tout à fait.
Vous l'avez créé, ce couvent, vous-même, il y a 20 ans.
Tout à fait. Nous fêterons les 20 ans l'année prochaine, le 1er avril. Ce n'était pas une blague. Ça a été créé le 1er avril 2000.
D'accord. Il y aura une fête à cette occasion?
Tout à fait. Nous sommes en train de discuter un petit peu de la préparation du projet. Et vous en serez informés et éventuellement... invité, si vous pouviez descendre.
Eh ben,
ce serait avec plaisir.
Je vous assure, ma sœur, que c'est délicieux de savoir ce qu'on va faire le 1er avril prochain.
Voilà.
Voilà la première chose que je vais mettre dans mon agenda.
Voilà. Oui, voilà.
Et alors, reprenons un petit peu les termes, parce que là,
oui,
bon, les sœurs,
oui.
Les mères, les sœurs, ça va, du point de vue de la religion.
D'accord.
Bon, les novices.
Alors.
Les postulantes.
Voilà. Alors on va partir de la base, c'est-à-dire que pour entrer au couvent, les gens postulent. Ils postulent, c'est-à-dire qu'ils écrivent une lettre. Enfin, les personnes écrivent une lettre au couvent en demandant comment elles nous ont connus, ce qu'elles veulent apporter au couvent et si elles veulent soit être sœurs ou garde-cuisses. Alors je vous expliquerai vite fait après garde-cuisses et sœurs. Donc, elles postulent. Au bout d'un certain temps, elles font des actions avec nous, elles nous accompagnent, ce qui sera le cas de la postulante que vous verrez demain, qui est Océane, qui est une fille. Elle va nous accompagner en civil et elle va suivre des actions au fur et à mesure. Au bout d'un certain temps, si elle donne satisfaction et si ça lui plaît, elle va passer novice.
D'accord.
Novice, donc, elle n'aura pas de cornette. Mais elle va prendre son voile, comme dans la religion catholique.
D'accord.
Et elle va prononcer les six vœux du couvent.
Donc, comme la novice Aruspice qui est à l'origine de toute cette histoire.
Voilà. Comme la novice Maria Aruspice, qui, elle, a été élevée novice cette année pour les 40 ans des SPI de San Francisco.
Ah, d'accord.
Ça a été à cette occasion qu'on a élevé novice.
D'accord.
Donc, elle a prononcé ses vœux, elle aura un voile, elle a sa couleur, elle a son nom. Mmh. Au bout d'un certain temps, elle va continuer à faire des actions en novice. Et au bout d'un certain temps, elle passera sœur en renouvelant ses vœux.
Uh-huh.
Et elle aura à ce moment-là la cornette.
D'accord. Et alors les vœux des sœurs de la perpétuelle indulgence, c'est quoi?
Alors les vœux des sœurs de la perpétuelle indulgence, c'est exactement, ça définit le couvent. Le premier vœu, c'est le vœu de visibilité, de rejet de la honte et de lutte contre toute forme de discrimination. Le deuxième vœu, c'est le vœu d'amour, de fête et de joie universelle. Le troisième, c'est le vœu de paix, de respect de la différence et de toute croyance. Le quatrième, c'est le vœu de charité. Le cinquième, c'est le vœu d'information et de prévention concernant le sida et les infections sexuellement transmissibles. Et le sixième vœu, c'est le vœu de devoir de mémoire des personnes persécutées ou disparues à cause de leur orientation sexuelle ou décédée du fait du sida.
Mmh. Voilà. D'accord. Et donc là, on renouvelle ses vœux quand on devient sœur.
Quand on devient sœur.
D'accord.
Pour les gardes-cuisses.
Et alors voilà, les mystérieux gardes-cuisses et aspirants gardes-cuisses.
Alors pourquoi des gardes-cuisses? Alors au départ, il n'y en avait pas à San Francisco. Hein. Aux États-Unis, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a. Mais au départ, il n'y en avait pas. Alors, les gardes-cuisses, c'est comme les sœurs, sinon que ce sont des personnes qui ne voulaient pas s'habiller en sœurs, qui est quand même un message féminin, dirons-nous, et qui préféraient rester garçons. Donc, ils sont habillés assez cuir, avec... Et pourquoi les gardes-cuisses? Parce que au Vatican... Le pape a les gardes suisses, mmh. Et donc nous, on a nos gardes cuisses qui sont chargés de veiller sur les sœurs et de nous protéger.
Ah, d'accord.
En plus, voilà. Et donc, ils sont, pareil, ils postulent, ils sont aspirants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore gardes cuisses. Mmh. Et pareil que pour la novice, au bout d'un certain temps, ils deviennent gardes cuisses. Voilà.
D'accord. Et ils ne prononcent pas de vœux, eux?
Ah oui, ils prononcent exactement les mêmes vœux, tout à fait. Alors, ils prononcent les vœux, alors seulement eux, quand il y a des élévations, en principe, les sœurs, les élévations de sœurs se font dans des centres LGBT, dans des lieux commerciaux, dans des lieux, dans des boîtes, voilà. Les gardes-cuisses, eux, les élévations, la plupart du temps, ont lieu dans ce qu'on appelle des endroits pas très fréquentables, c'est-à-dire des endroits de boîtes à cul, vulgairement parlant. Voilà, parce qu'ils ont un côté
sœur.
Cuir. Voilà, ils ont un côté cuir et sexe qui est beaucoup plus prononcé que chez les sœurs.
D'accord.
Voilà.
Donc là, vous allez évangéliser. C'est parce que c'est un vrai sacerdoce, hein, je crois, votre.
Ah, c'est
pas juste une partie de rigolade. On rit beaucoup avec vous en général.
Oui, oui.
Mais c'est pas juste une partie de rigolade.
Voilà. Ce qu'il y a chez les sœurs, c'est quelle que soit l'action que nous faisons, qu'il soit sérieuse ou pas, nous sommes toujours dans la fête, la joie, l'amour et le respect. Et la dérision. C'est pour ça qu'on a souvent des noms qui sont des fois irrespectueux et puis des fois marrants. Et ça fait partie de l'optique des couvents de France, de Navarre et de partout.
Et d'ailleurs.
Voilà.
D'accord. Et en fait, alors donc là, vous venez ce week-end, pas seulement pour aller dans les bars et en boîte, mais
non,
pour... Pour Quasar, on en parlera juste après.
Oui.
Et puis, par contre, pourquoi est-ce que vous allez à l'entre-deux, au Delice et à l'insolite?
Alors pourquoi? Parce que d'abord, tout ce qui est, disons, en dehors des centres LGBT, tout ce qui est commerce gay ou même gay-friendly, on se doit dans toutes les villes où on se déplace, des places, on se doit ne serait-ce que qu'y passer. Parce que si vous voulez, ça fait partie un petit peu de la visibilité, déjà. Et ensuite, à chaque fois, il peut y avoir ce qu'on appelle des confessions. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui nous voient en sœurs, qui ont envie de parler de tout et de rien, ou qui ont des problèmes sérieux de traitement, qui viennent de se découvrir séropositifs, ou qui sont mal dans leur homosexualité, ou qui sont rejetés par les parents. Les sœurs, nous avons aussi un devoir d'écoute. Voilà, nous sommes là, on écoute, nous ne sommes pas des professionnels, on essaye de donner des avis, des conseils, mais on n'est pas des professionnels, et on fait le relais avec d'autres associations. C'est-à-dire que si on nous pose des questions, par exemple sur le VIH et tout ça, bon, on est au courant, mais lorsque ça devient très pointu ou que la personne a besoin d'informations, on les amène vers ADOS ici à Sainte ou vers Aide, voilà, quand il y a Aide dans la région. Lorsqu'il s'agit par exemple de quelqu'un d'un gay qui a été mis à la porte et qui n'a pas de toit, on le dirige vers le refuge. Lorsqu'il y a des parents qui sont pas très, qui n'arrivent pas à comprendre, qui ont du mal, on les dirige vers les associations contact. Donc, si vous voulez, ça soit toutes les associations LGBT et tous les commerces LGBT gay friendly, parce que on se doit d'y aller. Alors, c'est vrai que dans les bars, c'est peut-être un peu plus festif que dans les centres LGBT, mais il arrive que même dans les bars, on ait des discussions. D'ailleurs, on a toujours dans les bars ou dans les endroits où on va, un petit coin où il y a toujours une sœur ou deux qui est là. Et si quelqu'un a envie de venir, de lui parler, de lui demander n'importe quel renseignement sur les sœurs, etc., on est là et on est là pour ça. Voilà.
D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, donc vous allez venir donc vendredi, vous allez à Tonix. À Tonix, vous serez à Tonix à 20h.
Oui.
Samedi de 19h à 20h30, vous serez à Quasar au moment de l'inauguration 15 rue de Jérusalem.
Tout à fait.
Ensuite, de 21h à 23h, vous serez au Delais.
D'accord.
Le
oui.
bar. Et de 23h à 1h, flûte à l'entre-deux, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et puis après ça, vous serez à l'insolite. Ça va c'est être exact. Un sacerdoce drôlement compliqué.
Drôlement compliqué, tout à fait.
Très, très difficile. Et dimanche, bah, vous repartez, tout le monde repart chez soi.
Tout le monde repart dans ses couvents.
D'accord.
Enfin, dans leur maison. Voilà.
Bah, écoutez, Massin, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de nous parler ce soir.
Oui, alors,
d'avoir choisi Judy Garland Over the Rainbow aussi.
D'accord.
Et qu'on a passé. Et c'est vrai que ça fait du bien, cette chanson.
Voilà.
Et si des gens veulent plus de renseignements et veulent vous voir et vous parler,
voilà.
C'est pas compliqué. Soit dans les bars, soit surtout, bien entendu, à Quasar, 15 rue de Jérusalem. Et car oui, on a déménagé et on va inaugurer nos nouveaux locaux. Tout joli.
Oui. Et
donc, c'est le centre LGBTI d'Angers, 15 rue de Jérusalem à Angers. Le numéro de téléphone est le 02 41 88 87 49, comme le Maine-et-Loire. L'adresse, c'est le centre-lgbt-angers@quasar avec un z.fr. Il y a des permanences pour toutes et tous et tous au local chaque samedi de l'année de 17h à 19h. Il y a un seul samedi où c'est pas au local, c'est le samedi de la Pride, bien entendu.
Oui.
Sinon, toute l'année, même si ça tombe à Noël, même si ça tombe au premier de l'an, il y a quelqu'un. Et bien sûr, vous pouvez venir nous voir sur rendez-vous si vous ne désirez pas rencontrer d'autres gens en téléphonant ou en envoyant un mail à Quasar. Alors, il nous reste maintenant 50 secondes avant que Thierry et ses Sons of Blues nous rejoignent. Il est déjà là en train de s'installer.
Oui.
Il est déjà là en train de s'installer. Et puis, bah, si vous voulez voir Sœur Marie God, Sœur Marie Aruspis, les sublimes garde-cuisses et les aspirants garde-cuisses et la très différente postulante, je n'en doute pas, et bah, venir boire un coup, manger un morceau et puis rencontrer les sœurs, c'est chez nous, à Quasar, 15 rue de Jérusalem, samedi de 17h. À 19h, à bientôt à tous, à dans bientôt. Deux semaines, Thierry, et ben, ça va être à toi bientôt, attention.
Bonne soirée.
Ok,
bonne soirée.
Merci beaucoup et à la prochaine.
Et gros bisous.